Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
19h tout pile sur RMC, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport, bien évidemment, c'est Bartoli Time. Comme chaque dimanche soir, nous avons pris la boutique. Désormais, à chaque fois, nous revenons vraiment au cœur de l'actualité, vous faire vivre les exploits du week-end. Et il y en a eu énormément, surtout du côté du ski français. Et vous offrir une analyse approfondie, des interviews exclusives. Ce soir, nous allons aller aux quatre coins du globe, puisque nous commencerons par Melbourne et l'Open d'Australie, pour finir par les descentes de ski sous la neige. Alors tout de suite, nous plongeons dans un nouveau Bartoli Time. Et bien sûr, je souhaite bien évidemment un bienvenue et un bonsoir à Jean-Christophe Drouet, sans qui peut-être que cette émission n'existerait pas.
Bonsoir, je n'irai pas jusque-là, mais bonsoir Marion, bonsoir à tous. Je prends les honneurs, ravi de te retrouver pour ce nouveau Bartoli Time. Tu as parlé de Novak Djokovic, de l'Open d'Australie. On en parle dans quelques instants, de Cyprien Sarrazin, qui sera ton invité dans moins de 30 minutes maintenant, la nouvelle star du ski alpin français. Et puis 19h45, tout de même, l'avant-match Lens-Lyon. Marion, tu veux entrer dans le débat. Mbappé doit-il annoncer au plus vite sa décision?
On n'est pas d'accord avec Jean-Louis.
Oui, et tu en as un peu marre de cette question. Pour toi, c'est clairement non. Pour Jean-Louis Tour, en direct de Lens, ce sera totalement l'inverse. Et ce sera
bien évidemment. Mais c'est pour
un petit peu plus tard. Le 32-16 pour participer à cette émission et venir échanger avec Marion. Le tour des lives tout de suite. Marion, Le Havre-Lyon, évidemment, 18e journée de Ligue 1. Bonsoir Arnaud Valadon.
Bonsoir Jean-Christophe, 2 minutes encore à jouer dans le temps additionnel ici au Havre. Le Havre qui mène 3-1 et des Lyonnais réduits à 9 contre 11 après le rouge d'O'Brien à la 30e et il y a quelques instants le rouge direct de Saleh Tatsar. Ça démarre mal 2024 en Ligue 1 pour les Lyonnais avec une défaite qui se profile.
Merci.
Comme quoi on a bien fait laisser Saleh Tatsar à Lyon, laisser partir de Marseille. On vous le donne, il n'y a pas de souci. Prenez-le s'il vous plaît, qu'il prenne un carton rouge. On finira 7 bientôt ce match. Ça va être fantastique.
Oui. Alors si vous voulez nous rejoindre et que vous ne connaissez pas particulièrement Marion Bartoli, évidemment un petit peu fan de l'Olympique de Marseille. Il y a la CAN également avec la première journée, le premier tour, l'Égypte face au Mozambique. Johan Bredov, bonsoir. Non, Johan. Il va arriver, il va revenir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas.
1-0 pour l'Egypte avec un but de Mustapha Mohamed qui est l'attaquant du FC Nantes, donc qui est bien connu du championnat français. 1-0 pour l'Egypte, l'équipe la plus titrée à la CAN avec 7 coupes remportées.
Je vois pas pourquoi on s'embête à avoir des gens qui commentent, tu le fais parfaitement bien Marion. Un avis peut-être aussi Marion sur France-Suisse et l'Euro de hand, le tour préliminaire, le deuxième match pour nos Bleus. Bonsoir Nicolas Paul Orsi.
Salut Marion, salut JC. Oui Marion, je sais pas si tu veux commenter ma place. Moi si tu veux je me mets off.
Vas-y, décris-nous tout.
Plus 4 pour nos Français. Ça y est, commence à faire la différence. Ça a été très compliqué hein, puisqu'il y avait match nul à la mi-temps. Ils mènent 20-16 désormais. Il y a l'entrée en jeu dans le but de Samir Belhassen. C'est un gardien de but plein de talent qui joue en Allemagne, à Kiel, dans un des plus grands clubs du monde, qui est vraiment en train de faire la différence. Et donc du coup on peut mettre un petit peu plus notre jeu en place en attaque. 20 pour la France, 16 pour la Suisse, il reste 20 minutes.
Et beaucoup de live, je le disais, en ce début de soirée du rugby, la Champions Cup, la troisième journée entre l'UBB et les Saracens. Bonsoir Paul Lafitte.
Bonsoir JC, bonsoir Marion. Effectivement, une partition quasi parfaite pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui mènent sur la marque de 19-3. Déjà 3 essais marqués par Biel Biarré, Buros et par Maxime Lamotte. Ils sont en train, JC et Marion, de sécuriser leur première place et donc de faire un grand pas vers les qualifications avec l'avantage évidemment de jouer ici à Chabandelmas en 8e et pourquoi pas en quart de finale s'ils venaient à s'imposer en 8e. En tout cas pour l'instant, une vraie partie de rugby, une régalade devant 35 000 spectateurs médusés. Ce score de 19-3 en faveur de l'UBB face aux Anglais des Saracens.
Le Havre-Lyon, ça vient tout juste de se terminer, Arnaud Valadon.
Et avec la victoire du HAC, 3-1, Lyon était réduit à 10 dès la demi-heure de jeu. Deuxième carton rouge direct pour Saleh Tatsar. Lyon a repris des buts et surtout repasse en position de barragiste en défaveur d'une moins bonne différence de but par rapport au FC Metz. La première est la défaite de Pierre Sage en Ligue 1, la première pour l'OL en 2024. Défaite 3-1, logique ici au Havre.
Merci beaucoup Arnaud Valadon, on te libère pour aller recueillir les principales réactions. Évidemment, vous les entendrez dans cette émission. S'il se passe quelque chose au Havre, 3-1, donc la victoire du Havre face à Lyon, c'est la première défaite, alors que les Lyonnais restaient sur 4 victoires d'affilée. Appelez-nous, évidemment, supporters lyonnais. Vous voulez parler de la rencontre de votre équipe. Vous êtes extrêmement déçus après ce faux pas.
Oui, venez nous parler du niveau de Tchaletatsar.
N'hésitez pas à venir nous en parler, Tchaletatsar. Pourquoi pas un petit tour quand même au hand, parce que c'est extrêmement serré, même si les Bleus commencent tout doucement à se détacher. France-Suisse, le deuxième match pour notre équipe de France. Nicolas Paolorsi.
21-18 pour la France. Il y a un très bon Nedim Rémili en attaque, hein, qui abreuve de ballons ses pivots, et notamment Ludovic Fabregas. Ballon pour Elohim Prandi avec Rémili, dit quand même sur la base arrière. On va juste suivre cette possession. Rémili à l'angle et super barré du gardien suisse Nicolas Portner, qui va permettre à la Suisse d'avoir un ballon pour remonter à deux buts. Il est loin d'être terminé ce match. 41 minutes de jeu, il en reste 19 dans cette partie. Plus 3 pour les Bleus, 21-18.
Ouais, Nicolas, on rappelle qu'une victoire, même si les Bleus sont favoris, hein, face à la Suisse, mais une victoire ferait le plus grand bien avant le tour principal.
Il serait qualifié pour le tour principal. Après, vous savez qu'une qualification pour le tour principal, vous commencez à connaître ces formules aux mondiaux et surtout à l'Euro de handball. Tu conserves les points acquis au tour préliminaire avec les équipes avec qui tu te qualifies. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, en
très
gros, si tu termines deuxième de la poule, ça veut dire que tu as perdu un match. Et bah, tu entames le tour préliminaire avec déjà une petite balle dans le pied. Donc, il faut essayer de terminer premier de la poule. Mais c'est sûr que si les Bleus l'emportent face à la Suisse, ils seront qualifiés pour le tour principal. C'est pas vraiment une info.
Bon, là, parce c'est que plus clair.
Voilà, on voyait là, vraiment pas la France clair. De toute manière se faire sortir au tour préliminaire. Hein.
Voilà. Plutôt un tour de chauffe pour les Bleus, mais en tout cas, ça permet aussi à cette équipe d'effectuer quelques rodages. Il y a un essai en rugby, l'UBB face au Saracens, Paul Lafitte.
Oui, j'ai essayé du bonus. Magnifique action collective avec, eh bien, au départ de cette action, le génialissime, n'ayons pas peur des mots, Mathieu Jalibert, un premier crochet intérieur, un deuxième crochet intérieur. Il s'arrache, il déchire le premier rideau défensif, il trouve à hauteur Maxime Loukou, qui retrouve, eh bien, dans le fermé Moefana. Et qui Moefana transmet évidemment dans de superbes conditions à Damien Penaud, le finisseur, qui marque un nouvel essai. Et même si cet essai n'est pas transformé par Mathieu Jalibert, l'UBB mène désormais 24-3 avec déjà JC Marion le point de bonus offensif. Autant dire qu'ils auront fait le job en l'espace de 36 minutes. Le score 24-3 pour l'UBB.
Tu vois, il est là, JC, ton point de bonus offensif.
Voilà, merci beaucoup.
Ça arrivait que quelques minutes plus tard.
Sachez que si vous venez de nous rejoindre, Lyon vient de s'incliner lourdement 3-1 face au Havre pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Et justement, Fabien veut intervenir dans Bartoli Time avec toi, Marion Bartoli. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Supporter
bonsoir,
lyonnais, comment tu te sens? Tu te
mauvaise
sens
soirée.
Pas battu visiblement par cette prestation lyonnaise. Comme j'ai vu, pour faire une analyse du match, je pense que l'Olympique lyonnais ce soir a pêché sur quelques actions, notamment je pense surtout au deuxième et troisième but. Koumbédi fait une erreur, hein, clairement, il veut la jouer à la tox au métier, qui tombe, il se laisse tomber, et derrière, l'arbitre ne tombe pas dans le piège. Et sur Ryan Cherki, qui veut aussi jouer un peu à la carotte, et qui tombe sur ce contre, pour un but derrière. Moi, je pense que surtout, la première mi-temps, qui est cataclysmique et qui est folle vis-à-vis de l'arbitrage. Voilà, on ne peut pas tomber tout le temps sur l'arbitrage, mais au bout d'un moment, quand il faut taper une pointe sur la table, il faut le dire, c'est surréaliste ce qui se passe. Alors, les deux rouges jaunes, il n'y a pas de souci. Il y a complètement carton rouge. La dernière qualité de char, il est en retard, il n'y a pas de souci. Mais sur Kylian Mata, en fait, s'il lui casse la jambe, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de VAR. Et juste après le corner de la deuxième mi-temps, le corner, il y a main. On voit sur le réseau, on n'est pas de mauvaise foi. Il n'y a pas de VAR non plus qui est demandé. Alors au bout d'un moment, on pourra dire oui, mais aussi à la dernière minute, il ne siffle pas main de Kaita Tchar. Au bout d'un moment, on fait ce qu'on peut. Et je pense que cet arbitrage était plus que limite. On ne va pas mettre en doute. C'est un arbitre qui est né au Havre. Bon, on ne va pas faire la considération autant, d'accord. Mais en tout cas, faut vraiment arrêter ce genre de supercherie, parce que je sais que sur tous les réseaux sociaux, les Lyonnais sont d'accord avec moi, sont unanimes sur cet arbitrage. Et voilà, maintenant, je tiens à dire, l'Olympique Lyonnais a peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais on n'est pas assez alarmé, je pense, que la première partie de saison. On a vu un beau visage en deuxième période, hein, on a fait une belle réaction, bon, après deuxième but, où l'Olympique Lyonnais était conquérant. J'ai vu une belle partie de Maxence Caté, surtout qui a bien géré ce milieu de terrain. Maintenant, il faut aussi dire que le Havre a joué sa carte, a été vraiment, vraiment une très belle équipe et a marqué aussi de super buts. Dommage que cet arbitrage en première mi-temps a mis des épines dans ce super match de Ligue 1.
Bon, on l'aura compris en tout cas, c'est vrai que les supporters lyonnais sont assez remontés contre l'arbitrage. Les Lyonnais qui ont terminé la rencontre à 9. Petite précision au classement, Lyon est 15e avec 16 points. Donc c'est vrai qu'ils connaissent une petite rechute de nos Lyonnais. Oui, Marion, rapidement.
Moi, j'ai une petite question pour toi. Bon, effectivement, avec les deux cartons rouges que vous prenez ce soir, malheureusement, vous avez deux defs centraux qui sont suspendus. Vous arrivez sur un calendrier qui est un petit peu compliqué. Hors match de Coupe de France en Ligue 1, vous allez sur Rennes et sur l'OM.
L'OM, oui.
Ça va se passer comment là sur la défense centrale? Il va y avoir un remaniement. Tu t'es pas un petit peu inquiet là sur déjà les problèmes qu'avait un petit peu l'OL là-dessus et beaucoup de buts encaissés?
De gros soucis. Après, point de règlement, comme tu le dis bien, Marion, est-ce que, si je me trompe, est-ce que la Coupe de France rentre après en compte? Est-ce que par exemple Kaita Char peut être suspendu en Coupe de France? Arrivé là, je dis ça comme ça, mais si les deux prennent deux matchs, on serait en galère contre le Stade Rennais, mais contre Marseille, il pourrait revenir. Adrielson qui est rentré qui arrive de Botafogo, qui a joué dernière minute en défense centrale, est une solution. Maintenant à voir, Pierre Sage va devoir encore batailler pour, comme tu le dis bien Marion, pour essayer de mettre encore en place, pas une solution miracle, mais trouver un autre défenseur centre avec Adrielson. Mais à voir ce que la Ligue va donner. Je ne sais pas si vous savez plus que moi, mais dans ce cas, peut-être c'est peut-être deux matchs, un automatique et un ferme. À voir ce qui va se passer. Mais comme toi, je suis dans le flou. J'attends de voir. Après, comme je te dis encore, un Lyon-Rennes, même si Rennes a encore gagné hier et qui est très bon.
Rennes-Nice. Mais de toute façon, les cartons vont compter pour la Coupe de France. Ce sera Bergerac-Lyon et ce sera la semaine prochaine. On sera là pour en parler dans Bartoli Time. Merci beaucoup Fabien d'avoir été avec nous au 32-16.
Merci Fabien.
Tu parlais de l'arbitrage. On guettera la conférence de presse de Pierre Sage pour savoir ce qu'il en a pensé. Les Lyonnais qui ont terminé à 9. Pour terminer ce tour des lives, je le disais, il y a aussi ce match de la CAN entre l'Égypte et le Mozambique. Johan Bredov, bonsoir.
Salut JC, salut Marion, salut à tous.
Ah Johan, on t'a retrouvé.
Oui, je suis là. Bien sûr, il y a une petite pause à la mi-temps, c'est tout. 52e minute de jeu, toujours à 0 pour l'Égypte face au Mozambique. Le but du Nantais, Mostafa Mohamed, dès le début de cette rencontre à la deuxième minute. Domination des Pharaons, même si faut se méfier quand même du Mozambique qui a eu des opportunités. 52e minute et l'Égypte qui mène 1-0 face au Mozambique.
Restez bien avec nous, avec Marion Bartoli. Dans quelques instants, on va débriefer cette première journée à l'Open d'Australie et ce match très compliqué pour Novak Djokovic. On va tout vous dire et vous l'entendrez dans cette émission. Mais juste avant le hand, parce que c'est de nouveau très serré, les Bleus qui n'arrivent pas à faire le break, Nicolas Paolorsi, face à la Suisse.
Ça va être serré jusqu'au bout, hein. Faut s'y préparer. Il reste 13 minutes dans ce match. On reprend deux buts d'avance grâce à un beau croisé d'Edim Remili qui travaille énormément pour ses arrières et pour Dikabem qui arrive avec son bras gauche, secteur central lancé et qui trompe Portner avec un tir à rebond. Ballon pour les Suisses qui nous mettent vraiment en difficulté dans le jeu sur grand espace. On appelle ça le jeu sur grand espace, c'est quand il faut courir sur tout le terrain, mais là on essaie de bien défendre. Il y a peut-être une possibilité de récupérer cette balle, ça nous ferait du bien au moins dans les têtes là pour essayer de se libérer. Il y a marché, mais les arbitres vont rendre cette balle à la Suisse. 23 pour l'équipe de France, 21 pour la Suisse. Il reste 13 minutes.
Ouais, c'est la mi-temps en rugby entre l'UBB et les Saracens. Sympa Lafitte.
Ouais, j'ai essayé, ils sont intouchables hein, ces joueurs de l'UBB. Ils auront fait la différence en l'espace d'une mi-temps. Ils mènent 24-3 avec 4 essais marqués par Biel Biarré, par Buros, par Maxime Lamotte. Et le dernier, une merveille vraiment à revoir pour tous les amoureux de rugby, avec une percée dans l'axe de Mathieu Jalibert à la conclusion. Damien Penaud, les internationaux se régalent ce soir, ils ont le point de bonus offensif, une autoroute vers la première place. Donc 24-3 le score ici à la mi-temps à Chamonix-Delmas.
À tout à l'heure, Paul Lafitte. Allez tout de suite, le ouf de soulagement de Djoko.
Avec un long rallye Djokovic qui insiste là, il a une balle au revers assez facile. Voilà, c'est fait. 4h01 avec un score incroyable, 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. C'est passé donc pour Djokovic. Il aura deux jours de repos, ça tombe bien. Ouais. Cette programmation pour lui, il jouera un Australien au prochain tour, soit Popirine, soit Paul Mans. Mais comme ça a été compliqué pour le numéro mondial.
RMC, la une de Bartoli Time.
Oh oui, une entrée en matière très compliquée pour le numéro 1 mondial. Victoire en 4-7 et 4 heures de jeu face aux Croates de 18 ans. Dino Prismic, je vous propose justement, et toi aussi Marion, d'écouter Novak Djokovic après cette rencontre. Il était soulagé, ça a été un long combat.
J'ai joué un jeu relâché dans le deuxième set. Je lui ai donné la pause, j'ai récupéré, mais je pouvais sentir qu'il commençait à se sentir plus à l'aise. Il ne manquait pas autant. Il y a eu des échanges acharnés, un jeu très physique, près de 4 heures pour 4 sets. À un moment donné, on aurait dit que je jouais contre moi-même devant un miroir.
C'est vrai que ce jeune croate joue un petit peu à la manière de Novak Djokovic avec des longs rallyes. Marion, comment tu analyses ce premier tour très compliqué? On ne s'attendait pas à ça.
Absolument. Alors ce match est déroulé en deux temps. Tout d'abord, Novak est rentré sur le terrain et il est impossible, lorsqu'on rentre sur le terrain contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, de ne pas entendre son palmarès absolument hallucinant égrené par le speaker. Et lorsqu'on est un adversaire en face, on a beau effectivement arriver avec le couteau entre les dents parce qu'on a 18 ans et qu'on a envie de faire ses preuves, forcément les débuts de match sont toujours très compliqués parce qu'on a la tête un petit peu sous l'eau. Et Novak en a largement profité en gagnant ce premier 7-6-2 en étant vraiment en contrôle du match. Donc moi, quand je le regardais, je me suis dit, bon, c'est bon, il va dérouler en 3-7, on va dire, comme à l'accoutumée. Je rappelle quand même qu'il a une stat absolument hallucinante. Il n'a plus perdu au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis 18 ans. Donc, quand vous rentrez sur le terrain, vous êtes un qualifié, que vous avez vous-même 18 ans, que vous avez grandi avec Novak Djokovic en adulant Novak Djokovic, comme c'est le cas de Dino Prismic. Effectivement, les débuts de match sont toujours extrêmement compliqués. Et Novak l'a admis lui-même dans sa conférence de presse. Il a effectivement joué un jeu trop relâché. Il a offert le break à son adversaire et derrière, ça a été un combat extrêmement intense. Dino Prismic, qui est un joueur avec d'énormes qualités, me rappelle beaucoup Holger Rune dans la façon dont il bouge sur le terrain, dans la façon dont il frappe. Il est déjà extrêmement fort physiquement pour son âge. C'est pas du tout un joueur inconnu, pour les spécialistes de tennis, puisqu'il vient de remporter Roland Garros Junior l'année dernière, en 2023. Là, il s'était qualifié, donc il arrive très vite et très fort sur le circuit ATP. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'il a vraiment été capable de tenir la cadence et de résister dans de très longs échanges du fond du court. Je rappelle quand même que c'est la première fois que Novak Djokovic doit s'employer plus de 4 heures lors d'un premier tour d'un tournoi du Grand Chelem durant toute sa carrière. Ça ne lui était jamais arrivé. Et lorsque Novak s'est détaché 4-0 au quatrième set, on s'est dit, bon, c'est bon, il va terminer, il va dérouler, ça va faire 6-0, ouais, 6-1, et puis son adversaire va lâcher. Et non, pas du tout. Il a continué à s'accrocher. Il a sauvé énormément de balles de match. Il perdait 5-3, 0-40. Il arrive à sauver son jeu de service. Franchement, un joueur qui m'a impressionné par non seulement sa capacité à garder une intensité d'effort extrêmement élevée pendant quasiment tout le match à partir du premier set passé, et puis surtout une capacité à croire en ses chances qui est extrêmement rare encore une fois quand vous êtes aussi jeune et que vous jouez contre un monstre total comme ça du tennis. Mais il n'y a qu'un shérif à Melbourne et pour l'instant il a 36 ans et c'est Novak Djokovic avec son palmarès absolument incroyable et sa domination totale à l'Open d'Australie et sans discontinuer depuis les 15 dernières années.
Ouais, et Novak Djokovic qui a été d'ailleurs très bon prince et très classe hein, après la rencontre, il a demandé à tout le public de venir saluer et applaudir le Croate, car s'il y a eu un match aussi serré, c'est avant tout grâce au niveau Absolument. De jeu du Croate. Djokovic qui a annoncé en conférence de presse être un petit peu patraque depuis 4-5 jours. Oui. Est-ce que, d'ailleurs, c'est le mot qu'il a employé, hein, patraque. Hein, il a dû le dire en serbe, mais il a dit patraque. est-ce qu'il faut tirer un enseignement donc, de cette rencontre s'il était un peu malade? Non. Ça ne veut pas dire que Djoko est un peu moins bien là? Pas du tout.
Non, mais il y a plusieurs choses à tirer. Tout d'abord, je pense que effectivement, pour lui de commencer le dimanche, c'est la première fois dans l'histoire de l'Open d'Australie que le tournoi commence le dimanche. On a l'habitude à Roland-Garros que le tournoi commence le dimanche. Là, c'est la première fois de l'histoire que l'Open d'Australie fait cela. Cela va engendrer quelque chose pour Novak Djokovic, c'est qu'il va avoir 2 jours de repos complet. Donc, s'il a attrapé un petit rhume, il a dit avoir la voix un petit peu cassée, donc ça s'entendait dans sa conférence de presse. Effectivement, 2 jours complets de repos pour attaquer mercredi, bah, ça va toujours un tout petit peu mieux derrière. Et puis, j'aimerais rappeler une chose qui me paraît importante, c'est que Novak Djokovic, dans les premiers tours des tournois du Grand Chelem, souvent lâche un petit set. Et par contre, en deuxième semaine, est totalement sur une autre planète. L'année dernière, en 2023. Exactement. Et le set qu'il avait perdu, c'était d'ailleurs contre un Français, Enzo Cuoco. D'ailleurs, sur le même score, 7-6. C'est quand même intéressant de voir des parallélisme comme ça qui se reproduisent. Et puis derrière, il avait découpé tous ses adversaires en 3-7 à partir du troisième tour avec Dimitrov, Demineur, Rublev, Tommy Paul et Tsitsipas, chacun battu en 3-7. Donc pour moi, franchement, je m'inquiète pas pour la suite, mais j'ai trouvé quand même Novak extrêmement concentré avec un niveau très élevé dès le premier tour. Et sur un adversaire où, franchement, il a fallu qu'aujourd'hui, il s'emploie énormément.
Oui, on l'a vu, on va dire, aussi haranguer la foule. On sentait que même lui avait peur lors de ce premier tour. En tout cas, on ne s'inquiète pas, c'est ton avis, Marion. Avant de parler des Français et de cette première journée à l'Open d'Australie pour nos tricolores, un point sur la CAN, parce que c'est très important. En une minute, là, tu parlais de Novak Djokovic. Le Mozambique a totalement retourné la rencontre face à l'Égypte, Yann Bredov.
C'est incroyable ce qui se passe pour le Mozambique. D'abord à la 55e, l'égalisation de Witty sur une tête et la main pas assez ferme du gardien égyptien El Shenawy. Et 3 minutes plus tard, le 2-1 pour le Mozambique face à l'Égypte. C'est Clésio Baoké qui récupère ce ballon en profondeur, qui passe devant son défenseur, le face-à-face plein de sang-froid de la part de Clésio Baoké. Et ça fait donc 2-1 pour le Mozambique face à l'Égypte. Je rappelle que l'Égypte est le recordman du nombre de titres et surtout le finaliste sortant de la CAN. L'exploit est en marche pour le Mozambique qui mène donc 2-1 face à l'Égypte à l'heure de jeu.
Ouais, ça pourrait être un premier coup de tonnerre hein, dans cette CAN 2024. Un point sur le hand parce que c'est extrêmement serré. Les deux équipes sont à égalité. France-Suisse, c'est le tour préliminaire, le deuxième match de nos bleus. Nicolas Paul Orsi.
Et attention, coup de tonnerre ici aussi hein, parce que la dynamique là, elle est plutôt suisse. 24 partout, tu le disais JC, les Suisses qui ont su trouver des solutions dans notre défense. On a manqué des situations en attaque avec Andy Kamem qui est très bon depuis le début du match et qui a tiré sur l'attaque précédente sur le poteau. Il reste moins de 7 minutes. Guillaume Gilles, le sélectionneur français, a posé un temps mort parce qu'on est dans le dur. Il faut retrouver de la continuité, se faire des passes et surtout essayer de mettre un petit peu plus d'impact physique pour embêter ces Suisses. 24 partout, moins de 7 minutes à jouer.
Bon, évidemment, la fin de rencontre, ce sera avec toi, Nicolas, Paolo Orsi. Un mot, Marion, sur nos Français du jour à l'Open d'Australie. Oui. Cinq Français étaient sur les cours. On a fait un 2 sur 5, hein, qualification de Diane Paris et de Quentin Alice. Élimination en revanche d'Arthur Rinderknecht en 5-7 face au Russe Kotov, de Léolia Jean-Jean et d'Alizé Cornet, sèchement battue par une joueuse issue des qualifications. Elle avait obtenu, hein, Alizé Cornet, une wildcard pour disputer l'Open d'Australie. Et tu vas l'entendre, Marion, je voudrais bien que tu réagisses à ses propos. Elle se projette à peine sur les JO. Alizé Cornet.
Évidemment que je pense aux Jeux de Paris, mais c'est presque pas un objectif en fait. Déjà parce que je suis même pas dans la course là avec mon classement, et puis il y a des filles devant moi aussi qui jouent très bien, et ça dépend pas que de moi. Je peux faire une bonne saison et finir quand même cinquième française et pas y aller, donc ça dépend pas que de moi. J'ai aussi envie de prendre ça avec un peu plus de légèreté, même si c'est pas mon tempérament et que je suis une bosseuse, mais j'ai pas non plus envie de me mettre dans cette course comme j'ai pu faire en fin de l'année dernière où j'ai joué tous les 125 000 de la terre pour pas avoir à demander une wildcard, et que ça m'a bouffé le moral, ça m'a bouffé la santé, et ça j'ai pas envie de le vivre cette année.
Marion, c'est rare de l'entendre comme ça, on a l'impression qu'elle a lâché.
Non, je dirais pas ça, mais effectivement, Élisée va avoir 34 ans le 22 janvier. Les années passent, les années sur le circuit sont usantes, sont éprouvantes, et lorsque malheureusement vous arrivez plus à maintenir un classement dans le top 100, j'irais même jusqu'à dire dans le top 80, il est très difficile de faire des programmations puisque les cuts, on va dire les classements pour rentrer dans les tableaux finaux, même en dehors des grands chelems sur un Master 1000 qui sont les tournois les plus importants, vous allez pouvoir gagner des points et puis continuer à avancer au classement, il faut être au minimum dans le top 60-70, et lorsque vous décrochez de ça, les programmations deviennent de plus en plus difficiles à effectuer. Vous devez jouer des tournois de moindre importance contre des joueuses qui sont beaucoup plus jeunes que vous, qui ont envie de prendre votre place, qui ont forcément une énergie bien plus importante quand vous avez 18-20 ans que vous en avez 34. Et la spirale est très difficile à inverser, mais il ne faut pas non plus complètement oublier tout ce qu'Alizé Cornet a été capable de réaliser sur un terrain. Elle a une carrière avec une longévité absolument exceptionnelle. Je me rappelle encore de ses débuts à Roland-Garros lorsqu'elle avait 15-16 ans. À 34 ans, elle continue à jouer quand même au plus haut niveau, donc il faut énormément d'abnégation, énormément de capacité de remise en question pour tenir aussi longtemps sur le circuit. Mais après, toute carrière a forcément une fin à un moment donné, et c'est vrai qu'elle disait, le sent certainement, qu'elle est plus sur la fin, mais elle aura une wildcard, une invitation à Roland-Garros, c'est certain, et j'espère réellement pour elle, pour tout ce qu'elle a donné pour le tennis français, qu'elle puisse terminer sur un grand match et sur des grandes sensations, et qu'elle puisse se partager avec le public français, que ça soit à Roland-Garros ou si elle arrive à se qualifier pour les Jeux Olympiques.
Oui, 112e joueuse mondiale aujourd'hui, Alizé Cornet, donc forcément elle doit batailler pour revenir en haut du classement, ou en tout cas grappiller quelques places. Alors, 4 Français sur les cours la nuit prochaine, Marion. Les Français, c'est Atman, Van Hache, Lestienne et Monfils. 3 Françaises, Gracheva, Ferro, et surtout, en aide session, ce sera à 11h du matin, heure française, le choc donc entre Caroline Garcia et Naomi Osaka, ex numéro 1 mondial, 4 grands chelems à son actif, et qui fait son grand retour après une maternité. Comment Caroline Garcia a appris cette mauvaise nouvelle d'affronter Naomi Osaka? Écoutez la réponse, elle est savoureuse.
Je savais que le tableau allait sortir et je recevais quelques messages, etc. Donc je me suis dit, je dois jouer quelqu'un qui est assez bien classé ou qui a une bonne réputation, on va dire. Et c'est vrai que je suis allée voir mon compagnon et je lui ai demandé, tu sais qui c'est que je joue? Il fait, oui, je sais. Je joue une fille qui a été bien classée ou qui a fait des grandes choses. Il fait, oui, tu joues Osaka. Je fais bon, bah ok, ça marche.
Ça marche et ça va être très compliqué.
Je pense que toutes les deux joueuses plongent un petit peu dans l'incertain. D'abord parce qu'effectivement, Naomi Osaka revient sur le circuit. Elle a joué qu'un seul tournoi. Elle a joué le tournoi de Brisbane. Elle a une victoire contre une joueuse qui s'appelle Korpach, qui est aux alentours de la 80e place mondiale. Elle a perdu sur Carolina Pliskova en 3-7. Mais donc, c'est ses premiers matchs de retour. Caroline, on espère qu'elle va être capable de redevenir la joueuse qu'elle était en fin 2022, où elle avait atteint la demi-finale de l'US Open, où elle avait remporté le Masters. Elle était irrésistible sur le terrain avec ce jeu agressif et en avançant. Mais effectivement, ça va être un match de cogneuses, un match de filles qui vont prendre beaucoup de risques, qui vont frapper très fort, qui vont servir très fort. Mais il est vrai que Naomi Osaka, l'Open d'Australie, et a quand même un palmarès qui est impressionnant. Elle a remporté deux fois ce tournoi. D'ailleurs, leur seule rencontre a été à l'Open d'Australie, au deuxième tour, et c'était la Japonaise qui s'était imposée en 2-7. Donc c'est forcément un premier tour difficile, mais je dirais que lundi, les deux joueuses et la ville de Melbourne plongent quand même dans l'inconnu et l'incertain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de références, ni pour Naomi Osaka, ni pour Caroline Garcia, mais on sait qu'elles sont capables toutes les deux de nous sortir un immense match.
Ok, ça c'est pour les amis et nos amis parieurs et pronostiqueurs. C'est très compliqué, voilà, d'aller sur cette rencontre, parce que c'est très difficile de connaître l'identité de celle qui va l'emporter. Caroline Garcia, Naomi Osaka, évidemment, on en reparlera.
En tout cas, c'est un match extrêmement
à l'échelle. Sur RMC, exactement, et pour un premier tour, c'est assez rare pour le souligner. Allez Marion, un point sur le hand, parce que c'est extrêmement serré. Égalité toujours entre la France et la Suisse. C'est le deuxième match de notre équipe de France dans cet Euro de hand. Nicolas Paolorsi, nous allons vivre les trois dernières minutes avec toi.
Là, on commence à transpirer très fort. La ballon pour les Français après un nouvel arrêt de Bellassène. Dika même. Ouais, Dika, secteur central, qui vient mettre une fléchette et transpercer Nicolas Portner. Ouh, qui fait du bien celui-là, parce qu'on avait des grosses gouttes là en tribune de presse. Mine de rien, on sentait la très mauvaise surprise arriver. C'est loin d'être terminé, mais la France repasse devant. 26-25, plus 1. Il reste 2 minutes 20. Ballon dans les mains des Suisses avec Andy Schmidt, qui nous fait très très mal pour sa dernière compétition. 12 passes décisives pour le joueur qui a été élu 5 fois MVP de la Bundesliga. Un des meilleurs championnats du monde dans un des meilleurs clubs du monde, les Rhein-Neckar-Löwen. Ballon pour Schmidt avec Noah Rubin, un grand arrière gauche de plus de 2m05 qui arrive secteur central. Nouvel arrêt de Samir Bellassène est en train de nous sortir une partasse dans les buts, les amis, avec son 10e arrêt en à peine 32 minutes. Il a 50% d'arrêt, Samir Bellassène, bien aidé là par l'entrée en défense également de Karl Konan, mais il fait beaucoup de bien. Le ballon sera tout de même récupéré par la Suisse. C'est pas forcément une bonne nouvelle. À moins de 2 minutes de la fin de cette partie, les Français sont devant 26-25, mais ce sont toujours les Suisses qui ont le ballon dans les mains, avec Andy Schmidt qui va demander à Noah Rubin, son arrière gauche, de prendre le secteur central. On joue avec un droitier sur le poste d'arrière droit, et on joue surtout plus 1, supériorité numérique. On a sorti le gardien de but côté Suisse pour mettre un joueur de champ supplémentaire sur le terrain et essayer d'avoir une supériorité numérique. Schmidt, oh, l'égalisation suisse, le shoot à rebond qui trompe Bellassène. Il faut jouer les Français, et on ne profite pas derrière du fait qu'il n'y a pas de gardien dans le bus. 1 minute 30 à jouer, match nul pour l'instant, 26 partout entre la France et la Suisse. Timothée Nguessan sur la base arrière, arrière gauche, Dika même demi-centre, Nedim Remili arrière droit, porte Enaï sur les ailes, Fabregas. Ce sont les Français qui doivent nous faire gagner cette partie. 1 minute 13 à jouer au chrono, et attention hein, parce que si la France fait match nul, ça commence à devenir compliqué pour la suite de la compétition. Dika même, l'arrêt de Portner, mais il y aura pénalty. Oh, le jet de 7 mètres pour l'équipe de France. Les arbitres qui ont sanctionné une petite poussette sur Dika même, pas forcément évidente, je vais pas vous mentir, à vitesse réelle, mais on prend. Et en plus, je crois que Lucas Lombeu, le pivot, a peut-être pris 2 minutes, j'en suis pas sûr. Ouais, il y a une poussette, hein. Il y a une poussette par contre au ralenti sur Dika même, c'est plutôt bien arbitré. Et oui, 2 minutes, ça veut dire qu'on a un jet de 7 mètres pour repasser devant. Melvin Richardson, le fils de Jackson, il est à 2 sur 2 et qu'on va terminer ce match en supériorité numérique. Melvin Richardson. Ah, le poteau de Richardson. 58 secondes à jouer, 26
elle
partout.
Est plus, allez.
Ballon dans les mains des Suisses. Et là, la dynamique, elle est plus vraiment pour nous. Après cet échec de Richardson sur jet de 7 mètres. Parce que, bah, c'est la Suisse qui va essayer de faire couler le chrono un maximum et d'aller tirer dans les derniers instants de ce match pour s'offrir une victoire. Va falloir prendre des risques côté français. Et on a posé un temps mort pour le sélectionneur suisse. C'est irrespirable ici à Berlin. Merlin dans la Mercedes-Benz Arena. Temps mort, il reste 39 secondes au chrono, 26 partout. Une minute de temps mort pour essayer de peaufiner les réglages. Ça va être très très compliqué cette fin de match. Hein.
Exactement, et on va la vivre avec toi dans quelques instants sur RMC dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Un point sur la CAN et ce coup de tonnerre de la Mozambique face à l'Égypte. C'est le premier tour évidemment. Johan Bréhaud, où en est-on?
Le Mozambique qui mène 2-1 face à l'Égypte à la 69e minute de jeu. Pourtant, les Pharaons avaient parfaitement débuté cette rencontre avec le but de Mostafa Mohamed, le Nantais, dès la deuxième. Mais en 3 minutes, tout a changé. D'abord à la 55e, la tête de Witty et l'égalisation, la main pas assez ferme du gardien égyptien. Et 3 minutes plus tard, c'est Clésio Bouaké qui vient terminer le face-à-face, le plat du pied pour tromper El Shenawy. Ça fait donc 2-1 pour le Mozambique qui n'avait jamais remporté, qui n'a encore jamais remporté un match dans son histoire à la CAN. 70e minute de jeu, 2-1 donc pour les Mambas face aux Pharaons. Oui Marion.
Et Johan, l'Égypte qui est finaliste de la dernière CAN.
Et oui, exactement.
Et deux fois finaliste des trois dernières éditions, donc ça serait une énorme performance pour
Marion,
le Mozambique.
Allez, le retour à Berlin. Ballon. Nicolas Paolorti.
Le dernier ballon pour les Suisses, c'est parti. 30 secondes à jouer, 33 secondes. Noir Rubin, le Yago, c'est un mouvement avec la sortie du pivot pour la Suisse. Andy Schmidt qui va essayer de mettre un contre un et qui va bien évidemment avec son expérience garder le ballon, faire traîner tout ça. Je vous rappelle qu'il reste 20 secondes dans ce match, qu'il y a 26 partout, que les Bleus sont en supériorité numérique, mais que ce sont les Suisses qui ont le ballon de la gagne. Andy Schmidt, très bien défendu par le Carl Conan, et il laisse traîner tout ça. Et les arbitres là qui se font un petit peu, je vais pas dire avoir, par l'expérience d'Andy Schmidt qui se jette au sol, qui va grappiller 3 à 4 secondes. Et du coup, on
mais
en
si,
est à 12
Nicolas,
secondes.
Comme ça, tu vas les influencer.
Il reste combien
ouais,
là,
tu
Nicolas
penses ah, je suis un peu loin. Il reste 12 secondes.
Crie fort, crie
12
fort.
Secondes. Temps mort, c'est reparti. Dernier ballon pour la Suisse. Les arbitres ont levé le bras. Ça veut dire que les Suisses vont devoir déclencher un tir. Andy Schmidt, on est en train de gesticuler sur le banc français. Schmidt qui se fait encore accrocher, mais c'est pas normal. Ils ont gardé le ballon une minute 20. Le dernier tir, l'arrêt de Bellassène. Est-ce qu'on va pouvoir aller marquer un but? Non, match nul. Match nul. L'équipe de Suisse qui arrive à accrocher nos Français. 26 partout. Et là, ça complique sérieusement la donne pour essayer d'aller chercher la première place de ce groupe et de viser potentiellement les demi-finales. Il faudra battre l'Allemagne dans une salle totalement acquise à la cause des Allemands mardi prochain. Les Français s'en sortent pas si mal au final parce qu'on aurait vraiment pu le perdre. Match nul 26 partout entre la France et la Suisse.
Ouais, on ne s'y attendait pas, c'est un mauvais résultat pour les Français. On voit les Suisses qui sont en train de danser sur le terrain, c'est dire leur performance et ce match nul face à notre équipe de France. Merci beaucoup Nicolas Paolorsi. Pareil, tu vas aller recueillir les principales réactions. N'hésite pas à revenir en live dans cette émission. 19h32, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des lives. Mais aussi la star du week-end, c'est Cyprien Sarrazin, le skieur français. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h. Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
19h35 de retour dans Bartoli Time avec une première partie de Bartoli Time extrêmement animée avec tous ces lives. Je vous rappelle le match nul de la France contre la Suisse en handball. JC, s'il te plaît, dérouille-moi le programme pour la fin de Bartoli Time.
Ouais, dans 10 minutes, nous prendrons la direction de Lens avant le choc ce soir entre les Lensois et le Paris Saint-Germain. Nous retrouverons en direct du Stade Bollard Jean-Louis Tour. Tu l'as dit, France-Suisse 26 partout. C'est l'Euro de hand, le deuxième match de notre équipe de France. C'est un mauvais résultat pour nos Bleus. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr. Le Havre qui s'est imposé il y a quelques minutes, 3-1 face à Lyon, 18e journée de Ligue 1. Et deux autres lives encore en course, c'est Égypte-Mozambique. La CAN, c'est le premier tour. Johan Bredov, où en est-on?
14 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire et la surprise est là. Le Mozambique qui mène 2-1 face à l'Egypte avec Mostafa Mohamed pour les Pharaons, puis les buts de Witty et de Clésio Bouaké. 14 minutes à jouer.
La Champions Cup, c'est du rugby. UBB Saracens, ça vient de repartir. C'est la troisième journée, Paul Lafitte.
Oui, j'y sais, un petit peu plus de 8 minutes en deuxième mi-temps et déjà un essai pour certainement l'une des futures stars du rugby français. J'ai nommé Nicolas Deporteur au départ et à l'arrivée d'une action qui amène donc le cinquième essai de l'UBB. 29-3, le point de bonus offensif évidemment. Les joueurs de Girondins qui déroulent dans cette partie. Le score donc de 29-3, on joue la 50e pile poil ici à Chaban.
Allez, c'est l'heure d'accueillir l'homme du week-end.
Les 10 dernières secondes d'effort pour Cyprien Sarrazin. Virage à droite, un virage à gauche. C'est le shoot final pour cette arrivée à Wengen devant 40 000 Suisses. Il est derrière.
59 centièmes de retard pour Cyprien Sarrazin sur Odermatt. Il tire la langue, Cyprien Sarrazin, les cuisses chauffent. Il est deuxième derrière Odermatt. Peut-être le troisième podium consécutif de Cyprien Sarrazin cette semaine à Wengen. Deuxième de la première descente raccourcie, premier du Super G hier et deuxième pour l'instant de la descente.
Sarrazin, Odermatt qui ne se quitte plus. Un jour c'est l'un qui est devant, le lendemain c'est l'autre. En tous les cas, magnifique mano à mano entre le Suisse et le Français.
RMC Bartoli à la folie.
À Wengen, vous l'avez entendu, il vient de se faire un nom. Une deuxième place en descente jeudi, une première place en Super G vendredi. Et rebelote hier, une deuxième place en descente. Cyprien Sarrazin est la sensation du moment, le meilleur skieur français de ce début de saison. Et il est ton invité, Marion. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir.
Oui, absolument. Bonsoir Cyprien. Alors tout d'abord, un immense merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis bien évidemment, félicitations pour une incroyable performance. Je rappelle que c'est la première fois de l'histoire du ski français qu'un tricolore enchaîne trois podiums de vitesse en trois jours lors d'un même week-end de course. C'est vraiment un exploit extrêmement rare. Est-ce que tu te rends compte de la performance que tu viens d'accomplir ?
Déjà, avec plaisir d'avoir dit oui à votre invitation. Et non, je me rends encore pas vraiment compte de ça, de tout ce qui est un peu historique. C'est juste dingue. J'ai pas eu vraiment le temps de me poser ces trois jours. Là, on vient d'arriver à Kitzbühel, donc je vais avoir aujourd'hui et demain de repos. Je vais en profiter pour me reposer. Et je pense que oui, là, je vais prendre conscience un peu de tout ça.
Alors il y a eu un enchaînement difficile, on l'a entendu dans le sujet, effectivement sur une fin de course, les cuisses qui commençaient à brûler. Quelle course a été pour toi la plus compliquée à gérer dans les trois ou celle que tu redoutais le plus ?
La plus compliquée à gérer, elle a été physiquement, c'était celle d'hier. J'ai vraiment senti que physiquement il y avait des... Ouais, j'avais laissé des plumes les journées d'avant, les journées ont été super longues. J'avais eu à chaque fois que 20 minutes de repos dans mon lit tous les jours. Donc c'était timé et hier c'était très très dur les dernières courbes où je me suis écrasé deux trois fois et je disais bon allez arrive en bas et bon ça fait une deuxième place c'est incroyable mais voilà c'est la première course que je fais en me disant ok va pas chercher à pousser plus que ça pour gagner juste arrive en bas. C'était le truc le plus dur à gérer, sinon après c'était vraiment que du bonheur. Je me régale en ce moment sur les skis et ça c'est top.
Oui, on le voit forcément et ça se ressent dans tes résultats. Limite, on a l'impression, Marion, que Cyprien, bon bah voilà, une deuxième place c'est bien, mais bon, lui, il vient aussi pour gagner désormais. Cyprien Sarrazin, l'homme
c'est
du week-end et notre invité dans Bartoli Time. Alors fin décembre, Cyprien, tu avais déjà remporté la fameuse descente de Bormio en Italie. Oui. Est-ce que tu as l'impression là d'avoir basculé dans autre chose ? Il y a les médias. Évidemment, il y a aussi les regards des autres, le regard des concurrents. Est-ce que tu as l'impression d'être devenu quelqu'un, une star ?
On peut le dire.
Ouais, c'est vrai que les médias, ça change. Ça change, je suis passé un peu du tout au tout. Même si j'avais eu un petit avant-goût en 2016 quand j'avais gagné le parallèle, mais c'était vraiment pas pareil. Et ouais, le regard de mes adversaires aussi a changé, de tout le monde du ski a changé aussi envers moi. Et je pense que le regard qui a le plus changé, c'est le mien sur moi-même. Et ça c'est top.
Alors c'est intéressant que tu nous parles de ça, Cyprien, parce qu'il y a ce fameux déclic. Ce n'est pas juste un mot lancé comme ça en l'air, c'est vraiment ce qui s'est passé pour toi, parce que tu as expliqué notamment à nos reporters ce week-end que tu souffrais, je ne sais pas si c'est le mot, mais le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour que en fait tu te dises « bah non, mais je suis un champion comme les autres
». Ouais, c'est vrai que ça a été un des plus gros déclics. Il y en a eu d'autres, mais c'est voilà le dernier qui m'a permis de gagner. C'est ça, c'est de m'autoriser à gagner, m'autoriser à être à ma place, quoi. Autoriser à gagner. Ça, c'était juste dingue. C'était inconscient. Hein, c'était inconscient. Je m'étais jamais dit, t'as pas le droit de gagner, mais. Consciemment, je m'étais mis ce blocage-là et j'ai réussi à le débloquer avec les personnes que j'ai appelées ce printemps après ma blessure de l'année dernière. Je me suis dit non, je veux plus être
à cette place-là dans mon canapé à regarder les courses, qu'est-ce qui manque. J'ai dit bah c'est mental. Ce qui manque c'est un peu de je sais pas comment dire, mais mentalement être plus costaud, et j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes, un psychologue et un coach énergétique, et là on a trouvé des choses incroyables quoi. C'était 9 mois vraiment intenses où j'ai bossé à fond là-dessus, et ça paye, et ça paye même au-delà de ce que je pensais. Et j'ai l'impression que voilà, 3 jours avant Bormio, je travaille ça avec ma coach, et j'ai dit ouais, j'ai le droit de gagner, et 3 jours après je gagne.
C'est dingue, fou quoi. Moi j'ai envie d'aller voir Marion sur tes propos, parce que ça paraît dingue en fait de se dire que il y avait un blocage psychologique. Ça on peut l'entendre chez les champions, mais de se dire à ce point-là, de l'identifier, et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, vu que tu l'as identifié, de se mettre à gagner à ce point-là, Marion, c'est, enfin, je sais pas, t'as déjà ressenti ça?
Alors, pour avoir travaillé moi-même avec un préparateur physique de Swiss Ski, donc qui bossait avec l'équipe de Suisse de ski, je sais aussi que dans le ski, vous prenez énormément de risques, déjà aussi dans la préparation physique, puisque le ski, on l'a vu avec Alexis Pinturo, est un sport bien évidemment extrêmement à risque. Donc non seulement il faut être très fort mentalement, mais aussi très fort physiquement. Et finalement, le mental se travaille aussi dans la préparation physique, en tout cas c'est ce qu'il m'a expliqué, pour mettre les skieurs en danger et justement leur prouver qu'ils étaient capables de résister à ça et donc d'être prêts pour les courses. Moi, ce qui m'intéresse dans ton discours, c'est de me dire finalement, est-ce que tu as mis une routine en place avec les gens qui t'ont aidé avant les courses pour te visualiser en train de gagner, en train de passer la ligne en première position? Comment ça s'est passé pour justement t'aider à réaliser ce déclic et te dire que tu pouvais être sur la première marche du podium?
Non, c'est pas une routine où je me vois gagner. C'est maintenant, je me dis ok. Enfin, des fois notre cerveau, bon, il se projette, c'est sûr. Mais avant, quand je me projetais, je me l'interdisais et je disais non, on n'y pense pas. Et j'enlevais cette vision-là. Et là, maintenant, je l'accepte. Je me dis ok, ben autorise-toi, passer la ligne et gagner. Mais c'est pas vraiment ça le truc. C'était bon, après, j'ai une routine d'avant course qui où vraiment voilà, j'ai une grosse base de confiance là-dessus. Et tous les jours, je fais ça, et tous les jours, ça fonctionne. Tous les jours, je produis à peu près le même ski. Ça, c'est juste incroyable. J'ai pas besoin de dépenser énormément d'énergie avant la course, la veille ou quoi. Je sais que j'ai mes 30 dernières minutes qui sont hyper stables, et du coup, je peux vraiment me reposer et profiter, voilà, rigoler à côté, vivre naturellement sans me mettre la pression pendant des journées avant. C'est pour ça sûrement que j'arrive à tenir les journées comme j'ai réussi à le faire ce week-end.
Dis-moi Cyprien, ils sont libres ceux qui t'aident? Parce que bon, moi j'adorerais, je suis fan de golf et j'adorerais gagner Augusta. Est-ce que tu penses que un petit coup de clé à molette et je peux y aller?
Ouais, je pense qu'ils sont libres.
Il faut du talent aussi hein, à côté, hein. C'est pas juste psychologique. Hein. Non, mais j'ai bien compris. Mais
oui, c'est sûr que physiquement, comme disait Marion, on s'entraîne à tenir ces exigences-là. Et déjà, de s'entraîner physiquement dans ces exigences-là, on arrive à programmer un peu notre cerveau à la douleur, quoi, la douleur et à l'engagement. Après, c'est un peu naturel chez moi d'aimer l'adrénaline et la vitesse, que je fais beaucoup de VTT de descente, et là-dedans, je retrouve aussi un peu de... Voilà, de...
Bah, en tout cas, j'espère que tu aimes la vitesse, hein, parce que forcément, ça peut aider dans ton sport. Tu l'as dit, il y a 3 jours très éprouvants là qui viennent de s'écouler. D'ailleurs, ça a fait des dégâts. On va reparler de la blessure d'Alexis Pinturo. Il y a aussi Kilde qui a chuté lourdement. Avec Marco Odermatt, vous étiez en colère hier, 3 jours, 3 courses. La FIS, la Fédération Internationale, est-ce qu'elle fait en ce moment n'importe quoi? Est-ce qu'elle joue avec la santé des athlètes?
Ouais, on peut... C'est dommage de voir des grands noms comme ça tombés l'un après l'autre. Une grosse pensée à eux. Hier, c'est sûr que la dernière course, après 2 jours, enfin, troisième jour de course, c'est la descente la plus longue du circuit. Ouais, c'est trop. On est peut-être des machines, mais on reste quand même humain. Et on, voilà, on joue avec notre vie... pendant 2 minutes, et ça sur 3 jours, c'était trop. Je me suis écrasé dans les dernières courbes, j'ai eu chaud quoi. Et me dire quand j'étais dans les dernières secondes de course, je me disais arrive en bas, va pas chercher à gagner, je me disais juste arrive en bas, et ça c'est un peu dommage. Après bon, la FIS, ils sont mis sous pression aussi, c'est compliqué, c'est de la politique. Moi je
oui, mais maintenant avec ton nouveau statut, mais... tu peux y aller.
Ouais, non c'est sûr, on a gueulé parce que quand on voit Alex tomber dans la ligne d'arrivée, c'est pas des bons moments quoi. Les sentiments ils sont pas bons, alors qu'on vient de réaliser une bonne course, c'est normalement la fête. Voilà, c'était assez dur comme Alexis la veille. Et
justement Marion, ouais, t'avais une question.
Il faudrait que ce soit.
Ça pourrait être évité. Marion, une question sur Alexis Pinturo, justement.
Oui, moi je voudrais savoir, Cyprien, est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu as pu le joindre? Est-ce qu'il a le moral? Est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de lui?
Oui, je l'ai eu par texto aujourd'hui. Il va bien, il est retourné auprès de sa petite fille et de sa femme. Il dit que c'est le meilleur antidouleur du monde. Et,
il vient d'être papa, hein, tout juste. Hein.
Ouais. Il vient d'être papa tout juste il y a quelques jours. Et grosse pensée à eux. Et aujourd'hui, je crois qu'il allait mieux. Hier, il souffrait quand même beaucoup et aujourd'hui, ça va mieux.
Bon, fin de saison pour lui, hein, on le rappelle, le verdict est tombé vendredi soir. Et c'est vrai que c'est très handicapant pour notre équipe de France. Je n'ai pas envie de dire heureusement qu'il y a Cyprien Sarrazin, parce que les deux parcours n'ont rien à voir. Mais en tout cas, on est très heureux, Cyprien, de te compter dans notre équipe de France et de nous avoir fait vibrer ce week-end. Il y a Kitzbühel, hein, qui arrive, tu viens d'arriver sur place en Autriche. Et forcément, c'est une descente mythique. On t'attend le week-end prochain. Tu seras libre dimanche soir prochain pour Bartoli Time?
On va tenter bonheur, tu vas voir, tu vas tout gagner. Et puis il y a deux descentes devant le public français qui vont arriver aussi début février.
Oui, à Chamonix. Bon, en tout cas, on te réserve une place dimanche prochain, on compte sur toi.
Hein. Oui.
Allez, ça marche.
Merci beaucoup, Cyprien, d'avoir été avec nous ce soir dans Bartoli Time. Allez, on se retrouve dans quelques instants, direction Lens. On parlera de Kylian Mbappé, Lens PSG avec Jean-Louis Tour et Marion Bartoli. À tout de suite.
RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet.
Marion Bartoli. 19h51, vous êtes bien dans Bartoli Time. C'est la toute dernière ligne droite de cette émission où je vais me bastonner avec Jean-Louis Tour parce que, comme d'habitude, on n'est jamais d'accord.
Eh oui, ce sera bon dans quelques instants. Juste vous donner un résultat très important. La France qui a fait match nul face à la Suisse pour son deuxième match à l'Euro de hand. Nicolas Paolorsi est en conférence de presse, évidemment. Vous allez retrouver les principales réactions sur rmcsport.fr, mais également avec Jean-Louis Tour dans l'Afterlife. Sachez qu'il y a encore ce match de la CAN entre l'Égypte et la Mozambique. Mozambique est... pour l'instant, peut-être un pénalty pour les Égyptiens, pardonnez-moi. Johan Bredov.
Ouais, c'est ce qu'on réclame du côté des Pharaons qui sont menés 2-1 par le Mozambique. L'ouverture du score pourtant de l'Égypte à la deuxième. Mostafa Mohamed, Witty qui a égalisé pour le Mozambique et Clésio Bauke qui permet aux Mambas de passer devant. Mais là, on réclame un pénalty sur une faute justement de Mostafa Mohamed qui semblait avoir le dessus. Il allait contrôler très haut le ballon et un défenseur du Mozambique qui lui a frappé dans la jambe. On attend ça. Il y a encore 5 minutes à jouer dans le temps additionnel. 2-1 pour le Mozambique.
Et on reviendra dans quelques instants. UBB Saracen, c'est de la Champions Cup, la troisième journée. Paul Lafitte, le temps de jeu,
ouais,
le score.
Je sais. En rugby total, l'UBB mène désormais 43-15. Un petit quart d'heure à jouer. On a assisté au 6e essai de Mathieu Jalibert, au 7e essai sur une interception de Damien Penaud. Mais c'est vrai que les Anglais, on le rappelle, triple champion d'Europe en 2016, 2017 et 2019, ont réagi. Le premier essai de Nick Tompkins et le deuxième sur un ballon gratté avec une course magnifique du talonneur Théodane. Le score donc de 43-15. On rappelle que l'UBB a déjà bien évidemment le point de bonus offensif dans la poche.
Ouais, il y aura effectivement le VAR, hein, Johan Bredov. On reviendra voir s'il y a pénalty pour l'Egypte dans quelques instants. Nous sommes dans le temps additionnel. Allez, tout de suite, Lens PSG et Kylian Mbappé.
Je suis très motivé, hein, très très motivé pour cette année.
Et le but à l'instant du pied gauche de Kylian Mbappé.
Après non, j'ai pas pris ma décision encore, j'ai pas fait de choix.
Mbappé qui accélère, Mbappé qui avance, Mbappé qui va frapper, Mbappé qui a marqué le deuxième but.
Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties.
La passe du talon, la tête de Mbappé, c'est le but. Oh, qu'il est beau. Et c'est un but de la tête, c'est rare pour le souligner.
RMC Bartoli Time.
Deux matchs en 2024, 4 buts et un suspense insoutenable sur son avenir. Kylian Mbappé fait beaucoup parler en ce début d'année. Il sera présent ce soir sur la pelouse du Stade Bollard. Jean-Louis Tour est en direct de Lens. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir JC, salut Marion.
Et pour la grande soirée, Jean-Louis. Évidemment avec toi dans quelques instants, notre débat qui vous oppose ce soir. Mbappé doit-il vite clarifier sa situation? Nous sommes pile à un mois du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Pour toi Marion, c'est non. Pour toi Jean-Louis, c'est oui. Marion, on t'écoute. Pourquoi non?
Mais non, c'est non, parce que d'abord, je pense qu'il n'a pas pris sa décision finale. Je pense qu'il va attendre de voir le parcours du PSG en Ligue des Champions, de voir si cette équipe, avec un nouvel entraîneur qui est Luis Enrique, avec un nouveau système de jeu, avec des recrues différentes, est capable d'aller gagner la Ligue des Champions, qui a l'Euro qui enchaîne derrière et les Jeux Olympiques. Alors même si les Jeux Olympiques restent effectivement pour le sport comme le football, une compétition un peu plus mineure, ça reste quand même des Jeux Olympiques en France, donc ça va être un événement extrêmement important pour Kylian. Et je pense vraiment pas qu'il ait la tête actuellement à prendre cette décision-là. Je pense que si le PSG est éliminé soit en huitième, soit en quart, ça sera complètement différent s'ils vont jusqu'en finale, voire pourquoi pas gagner la Ligue des Champions. Donc pourquoi vouloir annoncer quelque chose maintenant? Surtout s'il annonce qu'il part. Les supporters vont lui tomber dessus si jamais il ne fait pas des prestations absolument hallucinantes, en disant, ben voilà, ça y est, il a déjà la tête ailleurs, il est déjà parti, il a annoncé qu'il est parti, il ne veut plus se battre pour le club, il ne veut plus porter notre maillot. Donc je pense vraiment pas qu'il ait besoin de se mettre cette pression supplémentaire, qu'il joue ses matchs tranquillement, qu'il continue à évoluer avec le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible, qu'il ne se prenne pas la tête avant de prendre une décision maintenant.
Je te coupe deux secondes car il y a effectivement pénalty pour l'Égypte face au Mozambique, 2-1 pour le Mozambique, et nous sommes dans le temps additionnel. Yoann Bredov, Mohamed Salah pour le pénalty.
Avec son pied gauche, Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool. Il n'a pas fait un grand match, Mohamed Salah. 2-1 pour l'instant pour le Mozambique face à l'Egypte. 5 minutes de temps additionnel dépassé. Il en reste encore 1 minute et 30 secondes, peut-être un peu plus, avec tout ce temps d'arrêt dû à l'utilisation du VAR et surtout ce pénalty mérité pour les Égyptiens. Il y avait vraiment faute, pas de doute possible. 2-1, donc la possibilité pour les pharaons et surtout pour le pharaon, le joueur phare de cette sélection égyptienne, Mohamed Salah, d'égaliser.
Beaucoup de temps à tirer ce pénalty, ça ne nous arrange pas, hein, Johan.
Ouais, exactement, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont rentrés dans la surface. Mais Mohamed Salah qui va s'élancer avec son pied gauche. Mohamed Salah, le poteau rentrant, il s'est fait peur, Mohamed Salah, mais il permet à l'Égypte d'égaliser. 2 buts partout pour entre l'Égypte et le Mozambique. Donc il reste encore 1 minute 30 à jouer, 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel, de partout, Égypte-Mozambique.
Merci Yoann Bredov. Retour à Lens, vous avez entendu l'exposé de Marion Bartoli. Oui. Non, il ne doit pas clarifier maintenant sa situation. Jean-Louis, tu penses tout le contraire?
Ah ouais, c'est rare que ça arrive, mais effectivement, je pense vraiment tout le contraire de Marion. Alors déjà, donc, effectivement, il n'a peut-être pas pris sa décision, si tu veux, mais je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas prise. En fait, je ne vois pas quels éléments il a besoin pour prendre sa décision. Attendre que le PSG aille loin en Ligue des Champions, je pense qu'il faut être détaché de ça. Et d'ailleurs, le projet du PSG dépend pas d'aller loin ou non en Ligue des Champions, puisque ce nouveau projet, c'est lui qui a voulu ça, un truc moins bling bling, avec plus de joueurs français, qui a besoin de temps pour progresser, qui est moins ambitieux que les années précédentes. Donc il sait très bien quel est le projet.
Comme ça, on voit Colomboigny avoir des boîtes à chaussures à la place des pieds,
oui, mais ça,
partout. Ça devant les passements de Jean Denis. Donc c'est sûr, c'est bien.
Non mais ça, Kylian Mbappé,
on se régale un peu moins chaque week-end.
Il a été au centre quand même de ce nouveau projet et je pense que ça ne le dérangeait pas de voir arriver Colomboigny au PSG. Donc il sait quel est le projet parisien, il sait quel serait le projet ailleurs, que ce soit au Real ou à Liverpool. Donc moi je ne vois pas de raison pour ne pas décider maintenant, par exemple. Enfin, l'autre truc, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il annonce par exemple un départ? Bah là où moi je ne suis encore pas d'accord avec toi Marion, c'est que je pense que tout le monde a à y gagner. C'est-à-dire que effectivement il y aura peut-être une semaine, 10 jours, de critiques si Mbappé annonce son départ. Mais après, je suis persuadé que les choses vont se retourner et qu'il va y avoir une espèce d'élan positif autour des derniers matchs en France de Kylian Mbappé, des derniers matchs avec le maillot du PSG de Kylian Mbappé. En Ligue des Champions, il pourrait se passer quelque chose et surtout, on en aurait fini avec ce débat qui pollue l'actualité sportive du PSG.
Mais non, mais après, vous ne ferez plus de débat dans l'after.
Dans Rotten sans flamme, on en trouvera d'autres, t'inquiète pas.
Okay, ton feeling, Jean-Louis, juste en deux mots, tu penses qu'il peut l'annoncer rapidement? Je le disais, on est à un mois du match, il ne faut pas trop qu'il tarde pour ne pas vampiriser le match de Ligue des Champions.
Écoute, c'est ce que disent beaucoup de suiveurs. On aura des infos d'Arthur Perrault tout à l'heure dans l'avant-match. C'est la tendance qu'une annonce devrait être faite. Jérôme Rotten le laisse entendre également régulièrement dans Rotten sans flamme. Ça ne va pas être, a priori, hein, selon leurs infos, comme
comme la dernière fois, comme il y a deux ans, on a attendu vraiment le dernier moment. Il devrait y avoir une communication plus tôt. Est-ce que c'est la semaine prochaine, dans deux jours ou dans deux mois? Ça, en revanche, je ne sais pas.
Bon, tu m'as donné très envie d'écouter la grande soirée dans quelques instants.
Moi, je pense qu'il n'y a pas assez. Attends, j'ai deux questions pour.
Il est 19h59.
Qui remplace Hakimi? S'il te plaît, donne-moi la compo, Jean-Louis, s'il te plaît.
Alors, Carlos Soler remplace Hakimi. Et tu auras la compo complète en écoutant Jeannot Rességuet et Arthur Perrault dans deux minutes.
Mais bien sûr, je vais vous écouter.
Merci beaucoup, Jean-Louis Tour. Et restez bien à l'écoute d'RMC, car on vous donnera des dernières informations concernant Kylian Mbappé et la composition des deux équipes. Lens Paris Saint-Germain. Juste Juan Bredov, c'est terminé entre l'Égypte et le Mozambique.
Pas encore, ça joue encore. Deux buts partout entre l'Égypte et le Mozambique. Forcément, il y a un petit peu plus de temps additionnel. Mais voilà, l'Égypte qui s'en sort bien avec ce pénalty égalisateur de Mo Salah dans le temps additionnel.
Bonsoir, Marion.
Bonsoir, JC. Merci à vous tous de nous avoir encore une fois écoutés fidèlement. Et puis, les audiences sont sorties pour Bartoli Time. Nous avons doublé nos auditeurs en un an. Nous, vraiment, un immense merci pour votre fidélité. Et je rappelle, avant que ce match de PSG lance, Lens-PSG commence, que depuis que Lens est remonté en Ligue 1, le PSG ne s'est jamais imposé à Bollaert. Voilà, je vous laisse avec ce suspense. Je vous retrouve bien évidemment avec un immense plaisir dimanche prochain, même endroit, même radio, 19h sur RMC. Bonsoir.
RMC, 19h-20h. Bartoli Time.